Europe 1.
Hey, tonton !
Verveine, verveine.
What's happening ? What's happening ?
Hey ! Underground.
Verveine Underground.
Eric s'intelligente pour contrôler la discothèque.
20h, 22h sur Europe 1.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre.
Ça, c'est grave!
Je suis de retour avec ma sous-culture. Ouais, sauf que c'est nous le futur, hein?
C'est nous le futur!
Bonsoir et bienvenue dans Verveine Underground. Ce soir, on se fait un kiff. Je suis Mouloud Achour et toute l'année, de 20h à 22h, du lundi au jeudi, on a eu la chance d'être au micro d'Europe 1 avec des invités formidables. Et vous savez quoi? On s'en réécoute quelques-uns. Je reçois Esther Abrami, mannequin influenceuse sur les réseaux sociaux, mais surtout et avant toute chose, violoniste professionnelle de talent. Et Esther est avec moi ce soir. Comment ça va?
Très bien, merci.
C'est très dur de te donner un métier, en fait, Esther, tellement tu fais de choses. Il faut qu'on commence par le commencement, ça te va?
Oui, très
bien. Parce que moi, je fais partie des gens qui te suivent sur les réseaux et qui sont fascinés par ta capacité à faire un million de choses en même temps, mais toujours avec talent et acharnement. Et l'acharnement, c'est quelque chose qui définit quand même pas mal ta personnalité. T'es née en 96,
oui.
C'est vrai?
C'est ça.
T'as grandi à Aix-en-Provence. Tu dis, j'ai eu une enfance à la campagne, je suis allée dans une petite école de campagne. Comme j'adorais la nature, je passais mon temps dehors. On avait un grand jardin à la maison. Mon père m'a construit un petit banc sur une colline où je pouvais lire et jouer du violon. Ta mère est doctoresse en histoire de l'art et ton père est comptable. Quel a été ton premier contact avec le violon? C'est ta grand-mère, c'est ça?
Oui, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère était violoniste, mais elle a arrêté de jouer du violon quand elle s'est mariée. Donc je ne l'ai jamais vue jouer du violon. Mais je pense que ça a été un de ses grands regrets. Et elle avait toujours son petit violon, le violon sur lequel elle avait appris. Et du coup, quand j'avais 3 ans, elle m'a montré le violon. C'était ma première fois, en fait, c'est la première fois que j'ai vu un violon. Elle m'a montré un petit peu comment faire. Et ça, c'était la première fois que j'ai vu un violon. Après, ça a été plusieurs années plus tard que j'ai demandé à avoir des leçons de violon. En fait, mes parents, étant pas musiciens, ils m'ont jamais poussée à prendre des cours ou quoi que ce soit. Et donc, ils ont attendu pour que ce soit moi qui dise « Ah, en fait, j'aimerais bien commencer à jouer. »
Est-ce que c'est important, dans l'éveil des enfants, de leur faire découvrir un instrument de musique?
Je pense que c'est très important, même sans arriver directement à l'instrument. Déjà, la découverte de la musique, la découverte de comprendre comment ça marche, les sons, etc. Déjà, ça, c'est énorme. Et après, je pense que ce qui peut être super quand on est petit, c'est peut-être pas toujours d'avoir un seul instrument directement, mais de faire essayer plusieurs instruments pour voir un petit peu. Parce que j'ai parlé à beaucoup de musiciens qui m'ont dit, des fois, ils auraient aimé bien essayer différents instruments. On a tendance à dire, bon, tu fais cet instrument et tu restes sur ça parce qu'il ne faut pas t'éparpiller. Enfin, du coup, je conseillerais d'essayer plusieurs instruments. C'est là où c'est la beauté du truc aussi.
Qu'est-ce que ça a éveillé en toi, le contact avec un instrument?
Quand j'ai fait ma première leçon de violon, quand j'avais 9 ans, il y a un truc qui s'est passé. Et le fait, j'ai mis le violon comme ça, ils m'ont appris avec le violon, du coup, comme ça, sur l'épaule. Et j'ai senti, quand j'ai fait mon premier son, le fait que ça passe, j'avais l'impression comme si c'était, en fait, c'était la voix, tu sais, qui passait par le violon. J'ai eu un sentiment spécial et je me suis dit, à ce moment-là, je veux être violoniste. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je pense que je ne comprenais pas tout ce que ça allait impliquer, loin de là. Mais j'ai pris à ce moment la décision de faire ça pour le restant de mes jours, quoi.
Qu'est-ce que ça implique? Parce que quand tu parles de tout ce que ça implique, on a l'impression que c'est lourd.
Ça demande des sacrifices. C'est vrai que, encore une fois, venant, donc mes parents n'étant pas musiciens, on ne savait pas trop dans quelle direction aller. Par contre, voilà, effectivement, ça demande des heures et des heures de travail. Donc, je suis allée au conservatoire à Aix-en-Provence jusqu'à mes 14 ans. Quand j'ai fini le conservatoire, je suis partie en Angleterre à 14 ans, donc toute seule sans mes parents.
À Manchester.
À Manchester, ouais, en parlant 2 mots d'anglais. Ce qui était super, c'est que c'était une école vraiment où tout le monde voulait être musicien professionnel. Donc, c'était des cours aménagés et on avait les cours de musique et les cours académiques en même temps dans le même bâtiment. C'était une boarding school. Du coup, c'était intense. C'est vrai qu'on avait... J'ai travaillé quand je suis arrivée là-bas. Je me suis aperçue du niveau, en fait, du niveau que j'avais pas. Comme c'était international, et je travaillais, enfin, je me levais hyper tôt, je travaillais avant les cours, 3 heures avant les cours, entre midi et 2, au break time, le soir, tout le temps.
Mais qu'est-ce qui te donnait le feu pour continuer et pas lâcher l'affaire?
Parce que j'avais envie de faire ça, j'avais envie d'en faire mon métier. Et c'est vrai que j'ai jamais lâché, j'avais pas de plan B, en fait.
Tu t'es jamais posé la question ?
Je me suis posé la question plus tard. Je me suis posé la question quand mes amis autour de moi, autour de 18-19 ans, c'est le moment où tout le monde se pose la question généralement, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Et j'ai réalisé, je me suis jamais posé la question. Depuis mes 9 ans, je ne me suis jamais posé la question.
Et est-ce qu'on arrive à avoir des amis quand on est aussi passionné avec son instrument et sa carrière ? Est-ce qu'on arrive à avoir ça dans la vie, en fait ? Ou est-ce qu'on est destiné à une vie de solitude ? Parce que la plupart des musiciens classiques que je connais, j'en embrasse un en particulier qui fait de la trompette et qui me ressemble, il t'explique que pendant des années, c'est une vie de solitude.
C'est vrai qu'on est assez seul et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai commencé sur les réseaux sociaux en fait, à poster, c'était parce que je me sentais très très seule. Et surtout, donc, j'étais au Royal College of Music à Londres dans ma première année, et j'ai eu une première année difficile parce que j'étais toute seule, je me sentais enfermée en fait. Et c'est pas du tout la raison pour laquelle j'ai choisi de faire de la musique. La raison pour laquelle j'ai choisi de faire de la musique, c'était de partager ça au plus grand nombre. Et j'ai l'impression que tout ce que je faisais, c'était de travailler toute seule dans ma salle de travail et que je jouais pour les examens ou pour, voilà, pour un jury de 3 personnes. C'est pas pour ça que j'ai choisi de faire de la musique. Et j'ai commencé à me déprimer, j'ai commencé à même perdre l'amour que j'avais pour la musique et pour le violon. Et c'est le moment où j'ai eu l'idée de commencer les réseaux sociaux. Ça m'a ouvert une énorme porte et ça me fait vraiment du bien. C'est pour ça que j'ai continué après.
Et qu'est-ce qui t'a fait du bien ? C'est l'interaction avec les gens ?
L'interaction avec les gens. Ouais. Le fait que je postais une vidéo, surtout que quand j'ai commencé, il n'y a pas de musique classique sur les réseaux. C'était quelque chose de très très rare. Donc les gens, ils se sont intéressés. J'ai eu des réactions où je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais le fait que voilà, je lui poste une vidéo et tu as des connexions avec des gens de partout dans le monde, ça fait plaisir. Voilà, c'est vraiment une connexion avec les gens.
J'aimerais qu'on écoute un extrait d'un concerto pour violon de Mendelssohn. Vous écoutez Verveine Underground, on se retrouve dans un instant sur Europe 1.
Mouloud Achour, 20h, 22h.
Verveine Underground. Underground
sur Europe 1.
Esther Abrami, tu es aussi ce qu'on appelle un enfant prodige.
Je ne me suis jamais considérée comme enfant prodige parce que j'ai commencé donc le violon à prendre des cours de violon à 9-10 ans, ce qui est généralement l'âge où il y en a qui jouent déjà avec des orchestres. Et je suis allée dans une petite école de musique, ensuite je suis allée au conservatoire, mais c'est par exemple pas avant mes 21 ans que j'ai joué pour la première fois en soliste avec un orchestre. Donc je pense que mon parcours est un petit peu différent.
Mais est-ce que ce mythe-là de l'enfant prodige n'est même pas une pression folle sur les musiciens classiques ?
Je pense que ça donne une image du fait, et c'est ce que j'essaye de faire passer aussi par mes réseaux, de montrer que c'est pas justement parce que tu n'es pas passé par la case enfant prodige que tu peux pas obtenir ce dont tu as envie, tu peux pas obtenir la carrière dont tu as envie, parce qu'il y a d'autres manières de faire, et c'est pas parce que voilà, tu joues pas un concerto avec orchestre à 12 ans et que tu gagnes des compétitions internationales que tu peux pas atteindre ton rêve. Et c'est vrai que en musique classique, on a cette image-là. Et ça en décourage beaucoup, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, par exemple, j'ai 12 ans, est-ce que je dois oublier, est-ce que c'est trop tard pour moi ? Je dis non, bien sûr que non. Il y a plein d'autres choses, de manières de faire, en fait.
je trouve que Esther Abramit est un artiste qui décloisonne et qui démocratise la musique classique, pas uniquement dans le sens de la montrer sur les réseaux sociaux, ça c'est le degré de lecture basique de ton travail, mais c'est surtout en y mettant de la créativité. Et la créativité, souvent, c'est quelque chose de rare dans le classique parce que c'est très codifié, très basique. Et j'aimerais qu'on écoute Le Chocolat. C'est une pièce composée par la musicienne oscarisée Rachel Portman. Et on écoute ça tout de suite. Tout à l'heure, Esther Abramit va nous jouer en live une pièce de Rachmaninoff, Rhapsody on a Theme of Paganini, opus 43. J'ai bon.
Oui.
Ça va, j'ai
Rachmaninoff,
bon. Mais... Rachmaninoff, le fameux Rachmaninoff qui joue dans les Chevaliers de Dragon Ball. la créativité, comment est-ce qu'on arrive à la placer en fait? Comment est-ce qu'on arrive à sortir des cases, Esther Abrami?
Je pense que ça demande un petit peu de courage et aussi la capacité d'ignorer le jugement autour de soi. Ça, c'est quelque chose que, avec lequel j'ai dû beaucoup travailler sur moi, parce que c'est vrai que dès le moment où tu vas commencer à faire quelque chose d'un peu différent, dans un milieu où la plupart du temps, c'est des choses qui sont faites de manière... Voilà, comme je t'ai dit, par exemple, on a parlé de l'enfant prodige, c'est quelque chose, une idée qui reste. Dès que tu vas sortir un petit peu de ça, il va y avoir des jugements, il va y avoir des gens avec qui ça ne va pas plaire. Et donc, le fait de croire en ce que toi, tu as envie de faire, de croire en ta propre voix, et puis beaucoup de travail aussi, évidemment, mais je pense surtout de croire en soi et de ne pas toujours écouter tous les gens autour de toi.
Qu'est-ce qu'il faut comme courage pour sortir un premier album avec son nom quand on est musicienne classique?
Oui, c'est... Disons que c'était mon premier album et je voulais que ce premier album soit vraiment première image de ce que j'aime, de mes goûts musicaux. Je voulais aussi que dans l'album, on me le dit souvent, il y a un petit peu de tout. Effectivement, il y a un petit peu de tout, parce que je pense qu'aussi le public qui m'écoute, c'est pas un public défini. Il y a vraiment des gens de tous les horizons, de tous les âges. Et je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose pour chacun. Et c'est aussi de mes goûts musicaux. Il y a de la musique de film. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu mettre mon nom sur cet album. J'avais l'impression que c'était ce qui le représentait le mieux.
Et on parlait des réseaux sociaux, du côté positif. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on est une jeune femme comme toi, on doit se protéger sur les réseaux sociaux?
Je pense qu'on doit se protéger pas que sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'il... Quand je t'ai parlé de jugement, juste un petit peu, il y a ça qui joue toujours. Après, je suis quelqu'un de... J'aime beaucoup ma communauté sur les réseaux. J'ai l'impression d'avoir vraiment construit une communauté qui est... C'est très rare que j'ai des problèmes, que je me sente mal par rapport à un commentaire. C'est rare. C'est vraiment très rare. Et j'en suis reconnaissante. Mais je pense qu'en tant que femme, il y a quelque chose qui revient beaucoup, et c'est quelque chose que j'ai vu même qui a commencé dès l'âge ado. C'était vraiment en fait un commentaire sur le fait que dès que tu réussis quelque chose, on te dit que c'est pas grâce à ton travail, c'est pas grâce à ton talent, c'est pas grâce à toutes les heures que tu as mis, c'est pas grâce à ton acharnement, c'est pas quelque chose qui est pris en compte. C'est quelque chose qui commence, je me rappelle encore quand j'avais 14 ans et que j'avais une bonne note et que le prof était un homme, on me disait bah ouais, mais on comprend, on sait pourquoi. Et c'était accepté et personne ne disait rien, ça choquait personne. Et ça commence de là et ça s'arrête jamais en fait. Et
ça vient d'où ça?
Je sais pas d'où ça vient honnêtement, mais c'est assez c'est quelque chose que j'ai accepté pendant un long moment. Donc on accepte parce que personne n'a l'air d'être choqué autour de soi, donc on se dit bah ok, ça nous énerve à l'intérieur, mais petit à petit et ce qui est super c'est que maintenant il y a quand même un mouvement tout autour de nous qui commence à ne plus accepter ces choses-là. Et ça fait du bien, mais malgré tout, ça reste quand même un peu. Et c'est quelque chose qui va enlever tout ton acharnement, tout ton travail. Rien que le fait, même des fois, tu vas aller sur scène et tu veux mettre une robe, on va dire direct, ça va directement presque enlever tout, comme si tu n'avais pas travaillé aussi dur que les autres. Comme si toutes les heures d'acharnement. Et y a beaucoup de gens qui ne voient pas tout ça, tous les sacrifices que tu as fait. Comme on disait, enfin effectivement, on est beaucoup seul. Je passe la plupart de mon temps je viens juste de finir mes études, entre les études, le violon, les réseaux sociaux, la carrière, enfin ça n'arrête pas. Et il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ça. Juste.
Et est-ce qu'on te juge à cause de cette solitude? Est-ce que tu te sens jugée?
Je pense pas. Je pense qu'en tout cas, quand je suis avec les gens, je suis quelqu'un de ça. J'aime beaucoup parler. Donc je pense pas trop, mais je pense qu'au contraire, la plupart des gens ne se rendent pas toujours compte, en tout cas des fois dans le milieu classique, le temps que ça prend même au niveau des réseaux sociaux, c'est vrai que comme je disais c'est quelque chose de nouveau, c'est du travail, c'est du travail.
Non, ça se voit que tu travailles tout le temps, c'est pour ça quand t'es arrivée, moi c'est ce que je perçois de ton travail extérieur, j'ai l'impression que tout est fait avec la même dévotion, en fait. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qui te correspond, c'est la dévotion. C'est-à-dire que tout est fait avec passion, et la dévotion, ça veut dire se dévouer à quelque chose, et quand on se dévoue à quelque chose, on s'abandonne.
Oui, ouais, absolument. Mais depuis mon adolescence, j'ai toujours été, quand j'étais à l'école, donc en Angleterre, j'ai une petite anecdote, c'est que j'étais tellement toujours en train de travailler dans ma salle de travail que vraiment c'était la blague dans ma classe. Les autres se moquaient de moi parce qu'ils disaient, en fait, quand tu passes dans le couloir des salles de travail, il y aura toujours Esther, elle est tout le temps là. et c'était vrai, quoi, j'étais vraiment tout le temps là. Quoi.
Mais de quoi t'as peur, en fait?
Je pense
pour
pas,
travailler autant.
Ah, de peur, non, c'est parce que j'avais envie d'atteindre un certain niveau. J'avais des choses que j'avais envie d'atteindre. Mmh. Et encore une fois, on me l'a souvent reproché d'être trop ambitieuse.
Pourquoi?
Je sais pas.
Pourquoi est-ce qu'on le reproche à une femme et pas à un homme?
Je sais pas. On me l'a souvent reproché. On m'a dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle est? T'es un peu trop ambitieuse, tu veux trop. Par exemple, quand j'étais petite, je disais à tout le monde, oh, je veux faire des concerts, je veux enregistrer un disque, tout ça. Je disais ça à tout le monde avec fierté. Et puis quand j'ai été ado, j'ai arrêté de dire ça parce qu'on me disait, ah, mais t'es prétentieuse en fait de dire ça. Pourquoi tu dis ça? Tu penses vraiment y arriver?
Tu veux pas juste un mari, un enfant, un chien, une maison et tout?
Et
on te l'a dit ça.
et puis où c'était, bah non, mais enfin voilà, écoute, enfin faut que tu sois réaliste, faut pas avoir trop de rêves.
Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'ai l'impression de vraiment réaliser certains de mes plus grands rêves étant enfant, et ça me fait vraiment plaisir.
Restez avec nous, on se retrouve tout de suite dans Verveine Underground sur Europe 1.
Reste toujours underground.
Mouloud Achour, 20h, 22h.
Verveine Underground
sur Europe 1.
On est avec Esther Abrami, on parlait des rêves d'Esther Abrami, et souvent quand on est une femme, c'est vrai qu'on nous interdit les rêves et l'ambition. Enfin, je dis ça comme si j'étais une femme, je ne suis pas une femme, mais je comprends en tout cas.
Oui, oui, je pense qu'il y a cette partie-là, et il y a la partie dans le milieu artistique aussi, où on a un petit peu, on est un peu mis dans une boîte, et je pense que dès qu'on veut essayer de faire, par exemple, rien que le fait de jouer différents styles de musique, par exemple, en étant musicienne classique, c'est déjà quelque chose, les gens commencent à plus trop comprendre, mais attends, t'es musicienne classique, mais tu improvises aussi, qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi le pouvoir de l'improvisation? Qu'est-ce que ça déclenche dans le cerveau?
C'est génial. L'été dernier, j'ai été invitée par Ibrahim Malouf à monter sur scène avec lui sur un morceau. Et je devais venir à son concert et il m'a invitée à monter sur scène, je crois, un ou deux jours avant. J'ai dit oui direct et après, j'ai paniqué. J'ai dit oui, mais en fait, je vais improviser devant des milliers de personnes avec quelqu'un que j'admire énormément, qui est vraiment le roi de l'improvisation. Ok. Bon, et on a répété, etc.
Tu sais que je passe mon temps à faire des faux looks pour ne pas lui ressembler. Hein. J'invente tout le temps des looks, je regarde comment il s'habille, je fais différemment.
T'essaies de faire le...
J'ai pris 15 kilos là pour ne pas lui ressembler. Je suis allée au kebab pendant 2 semaines. Vas-y, pardon, je t'écoute.
et donc, je suis montée sur scène. Et honnêtement, au moment où, je suis arrivée sur scène, et bon, on a fait les répètes, etc. Mais le moment où tu arrives sur scène et tu te dis, je peux jouer, peu importe ce qui se passe dans ma tête, je peux jouer cette note-là. Et en tant que musicienne classique, c'est un autre monde. Quand tu as l'habitude de tout mémoriser, de tout jouer exactement comme la partition.
Oui, c'est comme si on profanait quelque chose, quoi.
T'as une liberté, liberté de fou. Et c'est ça qui fait peur, des fois. Parce que t'es tellement libre. Et en tant que musicienne classique, encore une fois, tu as fait toutes ces heures de travail, t'as appris tous ces concertos, tous ces trucs. Et d'un coup, tu peux choisir dans tout ça. Il faut choisir des notes, mais il faut choisir un rythme, il faut choisir tout ça. Et c'est toi qui le crée. Mais c'était magique, c'est une des meilleures expériences sur scène que j'ai eues.
Et quand on improvise, est-ce qu'on arrive à exprimer des choses en fait, avec des notes?
Absolument. Je pense que justement, ça donnait un côté, c'est ce côté personnel. Et l'improvisation est quelque chose que j'adore. Et j'adorais faire ça quand j'étais petite. Je me rappelle, je jouais mal, hein, mais je jouais pas. N'importe qui passait, je disais « attends ». Et puis après, encore une fois, quand j'ai grandi, parce qu'on nous demande cette perfection, entre guillemets, dans la musique classique, j'ai commencé à arrêter d'improviser et juste à travailler sur mes partitions. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai recommencé à travailler, mais c'est toujours quelque chose qui m'a inspirée. Et dont Les Yeux Noirs, c'était un groupe que j'étais allée voir quand j'étais petite. Et j'étais tombée amoureuse, mais vraiment. Mmh. Et ce que j'avais adoré, c'était par exemple le fait qu'ils aient tant de glissades, tu sais, beaucoup de glissades, le fait qu'il y a la pulse qu'ils avaient, qu'ils tapaient du pied, mmh. le fait que ça commence très lentement et puis qu'ils accélèrent. Et je me rappelle que quand j'étais retournée à la leçon de violon que j'avais cette semaine-là, j'étais arrivée au conservatoire avec mon violon, avec mon petit morceau classique, je ne sais plus si c'était une sonate de Mozart ou un truc, et ça m'avait été inspirée que j'avais commencé, j'ai joué mon prof, j'avais mis des glissades partout, j'avais commencé à taper du pied, j'ai commencé doucement, tu sais, et puis j'ai commencé à accélérer, mon prof, il n'a pas compris ce qui s'était passé.
T'as fait du breakdance.
mais voilà, mais c'est ça l'aspiration, enfin l'improvisation, c'est ça qui est magique, tu fais tout ce que tu veux, quoi.
Et dans la vie de tous les jours, c'est quand la dernière fois que t'as improvisé? Ta plus grande impro?
Ma plus grande impro. Je sais pas. Tu m'as. Je suis en train de me demander ma plus grande improvisation dans ma vie de tous les jours. Honnêtement, je pense que un petit peu tous les jours, je me donne. Je suis quelqu'un de. Tu m'as demandé, tu sais, je suis arrivée et tu m'as dit tu cours tout le temps partout quand tu fais plein de trucs. Mmh. Je suis quelqu'un de super organisé. Mmh. Je fais des listes pour tout. J'aime bien que tout rentre dans les cadres, en fait. Mmh. Et du coup, je me pousse des fois à m'enlever de ça parce que sinon, j'ai tendance à vraiment. Quand je te dis, voilà, il faut que ça commence à 7h-ci, j'ai une liste de choses à faire quand j'ai rien à faire. Enfin, ça va loin.
Mmh. Et je comprends. Et... Même moi, rien faire, c'est quelque chose que je prévois aussi. Je me dis là, de telle heure à telle heure, je fais rien.
Tu fais rien.
Et là, qu'est-ce que t'es en train de faire? Rien pendant encore 20 minutes.
Et donc j'essaye, en tout cas, même dans ma vie de tous les jours, que ce soit, par exemple, je vais rencontrer quelqu'un, prendre le temps de lui parler, d'être ouverte à ce qui peut se passer autour de moi, aux gens que je peux rencontrer, sans pour autant avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Mmh. Et je pense que c'est un petit peu comme ça que j'improvise dans ma vie de tous les jours.
En tout cas, tu parlais de liste et t'es venue avec une playlist. Esther Abrami, on écoute Regina Carter avec le morceau « It Don't Mean a Thing ». We'll be right back. Regina Carter, choisie par Esther Abrami, l'improvisatrice de talent qui fait des listes partout dans sa vie. Et elle est venue avec une playlist. Regina Carter, c'est une violoniste de jazz américaine née à Detroit, Michigan en 1966. Regina Carter a une éducation de violoniste classique, mais c'est aussi un peu tournée vers le jazz. Esther Abrami, on parlait de tes rêves et de tes ambitions et des cases que tu cochais et des listes que tu as faire. Est-ce que tu as un plan de vie? Est-ce que tu as un plan de carrière? Est-ce que tu te dis, je veux faire ça et puis après aller là et ça? Est-ce que tu as réfléchi à tout ça?
Je sais à petit peu près, enfin un peu, il y a certains rêves que j'ai envie d'accomplir. Mais je pense qu'au niveau professionnel, c'est plus, ça se passe plus naturellement, entre guillemets. Enfin évidemment, je mets toutes les heures de travail et tout ce qu'il faut faire pour y arriver. Mais c'est beaucoup basé sur les rencontres que je fais, sur les connexions que j'ai avec les gens. Avec en fonction comment je... Voilà, pour moi, c'est beaucoup basé sur les rencontres. Et Regina Carter, c'est une violoniste que j'ai rencontrée quand j'étais à New York. J'ai fait un échange avec mon université. Je suis partie 6 mois à New York à la Manhattan School of Music étudier. Et il y avait des cours d'improvisation jazz. C'était une option que j'ai prise. Le prof était génial. Et il a fait venir Regina Carter pour une des leçons. Et elle était assise à côté de moi. Et elle a improvisé. Et c'était fou parce qu'elle joue du violon. Je joue du violon, ça fait des années que je jouais du violon. Et la manière dont elle arrivait à faire sortir certains sons de son violon, j'avais jamais entendu ça. Et la manière dont elle a joué avec le rythme aussi, et surtout avec les silences. C'est-à-dire qu'il y avait presque plus de silences que de notes. Et ça, c'est quelque chose en improvisation, surtout quand t'as pas l'habitude, t'as tendance à beaucoup jouer de notes. Alors qu'en fait, souvent on te dit, mais attends, c'est tout aussi important les silences. Et c'était ça qui m'avait... Et j'étais vraiment à quelques centimètres d'elle et ça m'avait... Voilà. Et depuis, je suis une grande fan et j'écoute ça, sa musique.
En tout cas, on vient de l'écouter. On écoute un autre extrait de la playlist d'Esther Abrami sur Europe 1. C'est la danse funèbre, extrait du film. Et maintenant, on va où? De Nadine Labaki.
Thank you.
Danse funèbre choisie par Esther Abrami. C'est un film qui raconte la détermination sans faille d'un groupe de femmes de toute religion à protéger leur famille et leur village des menaces extérieures. Pourquoi ce choix, Esther Abrami?
C'est un film magnifique. Nadine Labaki, une de mes réalisatrices préférées. Mmh. Et c'est un film qui... Je crois que c'est un des films qui m'a le plus touchée. Et la danse funèbre... En fait, donc, tu l'as dit un petit peu, mais ça se passe dans un village au Liban où chrétiens et musulmans vivent jusque-là en paix. Et ils commencent à avoir un petit peu des troubles entre les musulmans et les chrétiens. Et les femmes se regroupent pour tout faire pour que la paix reste. Tout un tas de trucs qui se passent dans le film. Jusqu'au moment où, en fait, elles n'arrivent pas à faire arrêter ça. Et donc, elles vont jusqu'au point où, en fait, les femmes chrétiennes et musulmanes s'échangent leurs habits. Mmh. Et donc, leur mari se réveille et ils voient, donc, avec des habits complètement échangés. Et c'est aussi le moment où ils enterrent un jeune du village qui est mort. Et donc, les hommes portent le cercueil et ils arrivent vers le cimetière. Et il y a le côté musulman et le côté chrétien. Et il y a cette musique-là. Et là, à ce moment-là, ils se retournent vers les femmes et ils disent « Et maintenant, on va où ?» Parce que, évidemment, voilà, les rôles ont été changés. Et c'est un film absolument magnifique. Et la musique est juste superbe.
Et maintenant, elle va où, Esther Abrami? Est-ce que c'est des questions que tu te poses?
Oui, bien sûr. C'est des questions que je me pose. C'est des questions que je me pose tout le temps. Mais j'essaye des fois de me dire, bon, chaque chose en son temps, entre guillemets. Là, j'ai mon premier album qui sort dans quelques jours. Ça a été...
Vendredi.
Ouais, vendredi. Vendredi, ça a été un album qu'on a enregistré pendant la pandémie, qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'organisation, justement, parce que pour arriver à avoir plusieurs musiciens dans une même salle, c'était très compliqué. Mais c'est un énorme premier pas pour moi. C'était un de mes rêves étant petite de sortir un album chez un label comme Sony.
Est-ce que tu crois au pouvoir de la visualisation?
Oui.
Alors dis-moi, où est-ce que tu visualises l'avenir d'Esther Abrami dans 10 ans? Où est-ce que tu te visualises? Comment tu visualises? C'est quoi ton idéal, quoi? Le truc que tu...
Idéal.
En plus, tu connais la réponse par cœur. Donc...
Ce que j'aimerais vraiment, en fait, c'est avoir un planning où je peux jouer, tu vois, un concerto de Mendelssohn un jour dans la semaine et puis un autre jour faire un featuring dans un concert de jazz ou faire un featuring dans un concert de pop et puis à côté jouer un concert, un récital, de réussir à avoir vraiment pouvoir être un petit peu dans les différents mondes et de pas être seulement dans un, parce que c'est très très difficile. Ça paraît bête et ça paraît facile à dire comme ça, mais c'est tellement difficile.
Non, c'est très dur.
Et puis à côté de ça, je voudrais vraiment continuer à essayer de faire connaître la musique classique au plus de gens possible et aux jeunes et dont par les réseaux. Je pense que c'est effectivement un des grands moyens. Mais...
Pourquoi est-ce que c'est important de faire connaître la musique classique?
Parce que moi, on m'a toujours dit, les jeunes n'aiment pas la musique classique. On me l'a dit, on me l'a répété. Mais c'est pas vrai en fait. Et ça, je m'en suis aperçue quand j'ai commencé à voir les réactions des gens. C'est juste que je pense qu'on a tendance à ne pas la montrer de manière qui fait envie. Mmh. Et surtout pour quelqu'un qui n'a rien à voir dans le milieu. Et quand je me suis aperçue que quand par contre tu arrivais à avoir l'attention d'un jeune qui, par exemple, n'a pas du tout l'habitude d'écouter de la musique classique, il peut adorer ça. Donc je pense que cette phrase de les jeunes, ils n'aiment pas le classique, ils détestent ça, c'est pas vrai du tout. Mais je pense que c'est juste la manière dont on apporte ça. Et je pense qu'il faut créer un pont. Mmh. Et c'est ce que j'essaye de faire avec les réseaux sociaux, c'est ce que j'essaye de faire même dans ma manière de faire, manière de parler de la musique classique, la manière de... quand j'enregistre un album, etc., c'est d'année un pont. Souvent, les gens me disent « Ah, tu penses vraiment qu'avec une vidéo de TikTok de 15 secondes, tu vas faire que quelqu'un va écouter de la musique classique ?» Je dis « Bah, c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un, un jeune qui n'a jamais entendu de musique classique, aille à écouter une symphonie le lendemain. » Non, ça ne va pas se passer comme ça, effectivement. Mmh. Mais si tu crées un pont, c'est-à-dire qu'il va écouter une vidéo de 15 secondes de toi qui joue les 4 saisons de Vivaldi, ça va lui plaire. Il va liker la vidéo, il va voir d'autres vidéos comme ça qui vont lui être recommandées, ou il va cliquer sur le son, il va l'écouter sur Spotify, il va aller écouter une playlist de musique classique. Et c'est un pont comme ça. Et c'est ce qui fait que peut-être après ça, il va arriver à, oui, il va venir à écouter son premier concert de musique classique.
Qu'est-ce qu'elle a de classique, la musique classique?
Pour moi, la musique classique, c'est...
J'aime bien comment...
je me pose la question.
Est-ce que ça se prononce comme ça? Classique.
C'est une bonne question en soi. Mais je pense que au niveau des... Moi, j'ai toujours trouvé qu'au niveau des émotions, ça te faisait ressentir des choses que d'autres styles de musique ne faisaient pas. Et c'est pour rien enlever d'autres styles de musique, mais il y avait... J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose de spécial avec la musique classique. C'était quelque chose qui... Et c'est pour ça que c'est mon style de musique préféré et c'est le style de musique que j'ai choisi de jouer, que je jouerai toute ma vie. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur, ça te touche d'une manière, je trouve... Par exemple, peut-être aussi le fait qu'il y ait... que ce soit une musique instrumentale, le fait qu'il n'y ait pas de paroles. Mmh. Ça veut dire que c'est très, très personnel la manière dont tu interprètes la musique que tu écoutes.
La musique classique, c'est aussi ce qui t'a permis de découvrir le monde.
Oui.
Est-ce que tu aurais pu prévoir ça, en fait ? Quand ta grand-mère te donne un violon, te dire, t'appartiens à une génération où souvent les artistes qui font le tour du monde, ils font soit du rap, soit de la techno, même beaucoup plus de la techno ou de l'électro. Toi, c'est de la musique classique qui te fait voyager.
Écoute, j'en rêvais, en tout cas, parce que j'ai toujours adoré voyager et j'en rêvais justement de partir à travers le monde, faire des concerts. C'était mon rêve et c'est ce que j'adore à propos de sur ce métier. C'est de rencontrer des gens de tous les horizons, de tous les pays, de voyager. Et c'est pour ça, à chaque fois que je vais dans un nouveau pays, je demande toujours « Alors, vous écoutez quoi comme musique ?» Et enfin, je trouve ça passionnant.
À propos de musique, tu es venu avec une playlist qui est juste canon. On écoute de Barry Sisters avec, attention, je vais essayer de le prononcer correctement, Tumbalayaka, c'est ça ?
Tumbalayaka.
C'est une chanson yiddish, on écoute tout de suite sur Europe 1.
Tumbala, 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 tumbalayaka, tumbala, tumbala, tumbalala, spielbalalaika, tumbalalaika, spielbalalaika, tumbalala. Steht der Bucher in der Tracht, Tracht in Tracht, da ganze Nacht. Weimen zu nehmen, in nicht verschämen, weimen zu nehmen, in nicht verschämen. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 la. Spielbala, laika, tumbala, laika, spielbala, laika, tumbala, la. Mädel, Mädel, ich will bei dir fragen, wo's kann wachsen, wachsen und regen, wo's kann brennen, in mit auf Herren, wo's kann bänken, weinen und tränen. Tumbala, 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 laika, tumbala, 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 la. Spielbala, laika, tumbala, laika, spielbala, laika, tumbala, la. Narrischer Bucherin, wo darfst du prägen? A Stein kann wachsen, wachsen und regen. Liebe kann brennen, innet auf Herren. A Herz kann bänken, weinen und trären. Dumbala, 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 laika. Dumbala, 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 la. Spielbala, laika, dumbala, laika. Spielbala, laika, dumbala, la.
On vient d'écouter de Barry Sisters avec Tumbalalayaka, c'est ça ?
Il y a un la de trop, mais oui.
Tumbalalayaka.
Tumbalalayaka.
C'est une chanson yiddish. Les paroles en français, ça dit « Un jeune garçon pense toute la nuit, serait-ce mal ou peut-être bien, s'il déclare son amour au choisir, et accepterait-elle ou refuserait-elle »
Les chansons yiddish, c'est quelque chose qui me rappelle toujours mon enfance, parce que ma maman, elle me chantait souvent des chansons yiddish pour m'endormir. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Et du coup, c'est resté quelque chose qui me rappelle mon enfance. Et puis, cette chanson, qui est, je l'ai choisie parce que c'est une des seules chansons yiddish que je connaisse qui ne soit pas triste. Mmh. D'habitude, elles sont toutes tristes, t'as toujours envie de pleurer.
Elle n'est pas triste, mais il y a quand même quelqu'un qui ne sait pas s'il va se déclarer ah non, mais sa flamme ou pas.
Ça, c'est quelqu'un qui est heureux hein, dans le monde des chansons yiddish.
On est quand même dans un monde de quelqu'un qui est ambigu et torturé. Donc,
on
est à un niveau maximum.
Ah oui. Ah,
très
oui.
Bien.
Ouais.
Bon, toi, t'es heureuse.
Oui.
T'es en mode heureux.
Moi, je suis, ouais.
Mais en yiddish ou normal?
Je pense, non. Donc je
heureux, normal.
Ah ouais, ouais.
Tout va bien. Il y a quelque chose qui me plaît énormément dans ton travail. Je dirais pas ta personnalité, parce que finalement, ce que tu montes sur le réseau, c'est pas ça, ta personnalité, c'est ton travail. C'est le fait de toujours dire oui. On te propose un podcast, tu dis ok, je fais un podcast. On t'invite à la première d'un rappeur, tu dis ok, je viens à la première d'un rappeur. On te dit, il y a ton chef, il y a une pandémie mondiale, fais des vidéos, ok, pas de problème. Elle vient d'où cette mentalité-là?
Je pense de ma maman. On parlait avec la chanson yiddish avant, mais maman est quelqu'un d'extrêmement positif dans la vie. De toute façon, elle se réveille avec le sourire et en remerciant d'être vivante aujourd'hui, quoi. Et c'est une mentalité qu'elle m'a passée et de dire oui effectivement. Effectivement, je ne veux pas dire que je dis oui à absolument tout, mais je suis pour le fait de vivre des choses nouvelles. Je suis pour le fait de sortir de sa zone de confort. On a écouté le Yehudi Menuhin et c'est un de mes violonistes préférés et une des raisons pour laquelle c'est mon violoniste préféré, parce que j'admire énormément son ouverture d'esprit et son courage à sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que on l'a beaucoup critiqué sur certaines choses qu'il faisait pas bien, parce que il a enregistré un CD de jazz, il a joué de la musique indienne, il était chef d'orchestre et il était passionné d'éducation. Et des fois, on disait, par exemple, il y a une rumeur qui disait il devait travailler ses impros parce qu'il ne savait pas bien improviser. Mais il avait le courage de sortir de sa zone de confort en tant que musicien classique et d'aller dans des univers complètement différents. Il n'y a presque aucun musicien classique qui a fait ça. Et il était tellement en avance sur son temps, parce que justement il y avait cette mentalité de dire oui, dire oui aux choses nouvelles, de pas se renfermer dans ce que tu connais, parce que c'est tellement plus facile en fait de pas prendre risque de rester dans ce que tu connais, dans ce que tu es sûr que tu fais bien.
Mais toi, qu'est-ce qui t'a donné cette mentalité en fait? Parce que en général, pour penser à ça, il faut soit être capable d'affronter des périodes de sombre énormes pour remonter. On dit toujours ça, faut être capable de redescendre très très bas pour remonter très très haut, ou faut être dans une certaine insécurité.
Je pense que le fait de comme je t'ai dit, j'ai jamais été une enfant prodige. Je suis arrivée quand j'avais 14 ans à cette école et je me suis rendu compte que effectivement j'avais toujours eu envie de faire ça, mais le chemin que je devais faire était énorme. Je me suis jamais sentie vraiment en confiance complètement avec ce que je faisais. Et c'est peut-être aussi pour ça le fait que je suis restée si ouverte d'esprit, parce que je me suis toujours remis en question. J'ai toujours remis en question ce que je faisais. Je me suis jamais sentie à un moment où je fais ça tellement bien et du coup, c'est cette voie-là et rien d'autre. Et du coup, je pense que je me remets en question et j'ai pas de mal des fois à repartir de zéro quelque part. Et si je dois apprendre par exemple une nouvelle manière d'improviser ou de recommencer, commencer à analyser les accords au niveau d'une chanson, ça me dérange pas, ça me dérange absolument pas.
Tu la situes où, ta vie? À Aix-en-Provence, à Paris, à Londres? Je t'ai vu souhaiter le nouvel an iranien.
Ouais. J'hésite à dire ça sur une radio française,
Esther Abrami, dis-moi.
Mais ça fait presque 10 ans maintenant que je suis en Angleterre, donc depuis mes 14 ans. Et j'avoue que des fois, quand je viens en France, je me sens un peu plus anglaise que française. Mais c'est peut-être parce que je viens juste d'arriver à Paris et que du coup, le changement est un peu, est un peu brusque. Mais sinon, d'habitude, je suis l'été dans le sud avec mes parents. C'est vrai que ça me manque beaucoup quand même. C'est quand même le sud de la France, mais sinon une grande partie en Angleterre. Et je sais pas, c'est bizarre, je me sens française en Angleterre et anglaise en France.
Qu'est-ce qui donne envie de rester en Angleterre?
L'Angleterre, ce que j'aime, c'est quand même une ouverture d'esprit. On fait un petit peu ce qu'on veut. Tu sais, même dans la rue, les gens, ils portent ce qu'ils veulent. Je me rappelle, quand, venant de France, c'est pourtant pas très loin. Et j'avais eu un choc de culture, vraiment. Mmh. C'est quand même une culture très différente. Puis en plus, quand je dis, je parlais vraiment deux mots d'anglais, donc je suis arrivée. Mais ouais, c'est une culture différente. Les gens font vraiment pour ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de jugement. Je me rappelle, je suis arrivée dans l'école, c'était pourtant une école vraiment de renom et tout. Je me disais, tout le monde va être comme en France, où tout le monde est un peu habillé pareil à l'école. Mmh. Et il y avait des jeunes avec des cheveux rouges. Et je me disais, mais c'est autorisé. Et ouais, c'est autorisé.
En France aussi, bon. T'es venue avec un violon ?
Oui.
Est-ce qu'on aurait la chance de t'écouter dans les studios d'Europe 1 ?
Oui.
À toi. On se retrouve après le flash de 21h. À tout de suite dans Verven Underground.